4000 ans d'histoire. Une chronique historique hebdomadaire proposée tous les lundis de 16h30 à 17h par Elias Acocca-Vigneron, historien. Je remercie Marc et Marc Guy de « C'était pas prévu au programme » et aussi notre partenaire, Yes or No, une application de Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler de la petite princesse du Kremlin et des juifs du RSS. Il y a 10 ans, jour pour jour, s'éteignait dans un hospice pour personnes âgées démunies, dans le Wisconsin, Lana Peters. Ce nom ne vous dit sans doute rien, car vous la connaissez peut-être mieux si je vous dis que c'était la fille du tyran rouge, Staline, qui est née sous le nom de Svetlana Stalinova en 1926. Son histoire est romanesque et tragique. C'est le 3e enfant de Staline. Elle naît 5 ans après son frère aîné, Vassili, et après Yakov, fils d'un premier mariage. Dès le début de son enfance, sa vie semble promis à un bel avenir. Son père l'adore, il la prend sur les genoux. Elle lui écrit des lettres dans lesquelles elle lui dit qu'elle lui donne des ordres. Et Staline, le dictateur craint de toute l'URSS, lui répond « J'obéis à tout ce que tu me diras ». Mais le drame frappe en 1932. Le 25 octobre 1932, plus précisément, lors du 15e anniversaire de la révolution bolchévique, qui s'était déroulée donc le 25 octobre 1917. Nadejda Aliyeva, sa mère, se suicide. Ce jour-là, Staline était sur la place Rouge et célébrait la révolution. Le soir, un peu ivre, il rentre avec les hauts dignitaires du Parti communiste. Ils font la fête, ils flirtent avec diverses femmes en leur lançant des boulettes de pain. Il en lance aussi sur Nadejda, sa femme, qui lui dit alors « Ah, cesse donc de jeter ces boulettes ». Staline lui dit « Hé, bois donc un peu !» Elle lui répond « Je ne m'appelle pas Hé » et se retire dans sa chambre. Le lendemain, à 10h du matin, on la retrouve, une balle dans la tête. Staline avait passé la nuit dans une autre chambre. Il faisait chambre à part. Alors bien sûr, il n'est pas question de dire que la femme de Staline s'est suicidée. On maquille le corps. On demande à des médecins de certifier qu'elle est morte d'une crise d'appendicite, ce qu'ils se refusent à faire. Ils sont alors envoyés au goulag. Et puis on expose le corps, maquillé, en racontant qu'elle est morte d'appendicite. La petite Nadejda, qui n'a que 6 ans, ignore que sa mère s'est suicidée. Elle pense que sa mère est partie en vacances. Et elle n'apprendra les circonstances réelles de la mort de sa mère que 10 ans plus tard, en lisant une revue anglaise qui annonce les vraies raisons de la mort. À l'âge de 16 ans, c'est devenue déjà une belle jeune femme, et elle rencontre alors son premier amant, le cinéaste Alexis Kapler. Alexis Kapler a 23 ans de plus qu'elle. Il est né en 1903 à Kiev. Et c'est un cinéaste et un acteur reconnu. C'est notamment lui qui a écrit les scénarios de Lénine en octobre, sorti en 1937, ou de Lénine en 1918, sorti en 1939, ce qui lui a valu le prix Staline du meilleur film en 1941. Autrement dit, c'est un cinéaste acquis au stalinisme qui, défend le programme de Staline. Mais non seulement il est plus âgé, mais en plus il est juif. Et cela, Staline ne l'accepte pas. Il est donc arrêté le 3 mars 1943, accusé d'espionnage au profit de l'Angleterre et envoyé à Vorkouta, au nord de l'Oural, au bord de l'océan glacial arctique. Puis en 1948, il est de nouveau arrêté, envoyé une nouvelle fois au goulag, au camp d'Inta, dans l'Oural. Et ce n'est qu'en 1954, après la mort de Staline, qu'il sera libéré. Svetlana ne se remettra jamais de cette arrestation et lorsqu'il sortira du goulag, elle reprendra une brève liaison avec lui. Mais on ne refait pas le passé. Et finalement, eh bien, il mourra en 1979 à Moscou, alors qu'il s'est marié avec une autre femme. Quant à elle, qui a vu son premier amant donc déporté en goulag par son propre père, eh bien, elle épouse en 1945 un autre juif, Grigori Morozov. Lorsqu'elle lui apprend le souhait d'épouser cet homme, Staline lui déclare « Vas-y, épouse-le, mais je ne le rencontrerai jamais, ton juif. » Ils ont un fils ensemble, Joseph, donc comme son père, mais Staline ne vient même pas voir son petit-fils. Et finalement, le couple bat de l'aile, elle divorce en 1947, à la demande insistante de Joseph Staline. Grigori Morozov est alors arrêté, lui aussi envoyé au goulag. Lorsqu'elle lui demande à Staline pourquoi, eh bien, son beau-fils Grigori Morozov a été arrêté, il lui répond « Tu ne comprends pas. Toute la vieille génération est infectée par le sionisme et il l'enseigne à leurs jeunes. » Car Staline cherche un successeur. Il veut, par le mariage de sa fille, eh bien, trouver celui qui lui succédera. Alors en 1949, eh bien, elle épouse Youri Zhdanov, le fils d'Andrei Zhdanov, l'idéologue du Parti communiste, le bras droit de Staline. Ils ont ensemble une fille, Yekaterina, qui naît en 1950, mais le mariage est rompu quelque temps plus tard. Svetlana ne pardonnera jamais cela à son père, pas plus que le suicide de sa mère. Lorsque celui-ci meurt en 1953, eh bien, elle abandonne le nom de Stalinova, pour prendre le nom de jeune fille de sa mère, Alilouyeva. Elle devient donc Svetlana Alilouyeva. Logée dans un petit appartement de Moscou, elle l'étudie à l'université d'État et y enseigne ensuite l'histoire des États-Unis. En 1956, Nikita Khrouchtchev, le successeur de Staline à la tête de l'URSS, lors du 20e congrès du Parti communiste, lit un rapport secret sur les crimes du stalinisme. Mikoyan, un des hauts dignitaires du Parti communiste, transmet le rapport à son fils, rapport qui doit rester secret, Stepan Mikoyan, un ami de Svetlana, qui le donne à lire à la fille de Staline. Elle lit ce rapport sur les crimes du stalinisme devant lui, puis une fois la lecture terminée, elle le referme et dit « Et le pire, c'est que c'est vrai. » À partir de 1963, elle entame une liaison avec un communiste indien, Brajesh Singh, qu'elle a rencontré à l'hôpital. Mais c'est un étranger et elle n'est pas autorisée à l'épouser. Il faut pour cela une autorisation spéciale. Elle essaye de l'obtenir, mais on lui fait comprendre qu'elle ferait mieux de se trouver un russe communiste plutôt qu'un indien malade. Quand Brajesh Singh meurt en 1966, elle demande à voir Brejnev pour obtenir l'autorisation de rapporter les cendres de cet homme à sa famille en Inde. L'autorisation lui est accordée. Elle part en Inde en 1967 pour rapporter donc les cendres de cet homme qu'elle a aimé et souhaite ensuite rester en Inde, abandonnant en URSS son fils aîné de 22 ans, Joseph Alilouyev Morozov, et sa fille Yekaterina Zhdanova qui, elle, a 17 ans. Mais sa vie n'est pas assurée en Inde. Et elle se rend donc au consulat des États-Unis pour tenter d'être exfiltrée vers les États-Unis. C'est alors un agent du département d'État qui est chargé de son exfiltration. Via Rome et via la Suisse, elle arrive à New York en 1967 où elle donne une première conférence de presse dans un grand hôtel. C'est bien sûr l'occasion pour les États-Unis de dénoncer les crimes du stalinisme avec la propre fille de Staline.
I think that before the marriage it should be love. So if I will love this country and this country will love me, then the marriage will be settled, but I cannot say now.
Alors vous voyez, Svetlana dit que Elle aime les États-Unis, qu'elle souhaite y rester. Elle épouse en 1970 un architecte qui est un bras droit de Frank Lloyd Wright, qui s'appelle William Wesley Peters. Et elle a avec lui une fille, Olga, qui naît alors qu'elle a 44 ans, le 21 mai 1971. Mais le couple finit par se séparer en 1973. L'argent qu'elle avait gagné grâce à l'écriture de ses mémoires, eh bien, elle le dépense, notamment pour financer un ranch qui s'avère un véritable gouffre. Et elle finit dans la pauvreté, oubliée de tous. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de la petite princesse du Kremlin, comme elle avait été surnommée dans son enfance. Nous avons évoqué tout à l'heure le sort de la fille de Staline, Svetlana Stalinovna ou Svetlana Halilouyeva, d'après le nom de sa mère, ou Svetlana Peters, d'après son nom de mariage. Nous allons maintenant évoquer le sort des Juifs du RSS, et notamment en partant de l'année 1917, date de la révolution bolchévique. Alors vous entendez un chant de 1917, chanté par les révolutionnaires bolcheviques, qui s'intitule « À l'appel de Lénine ». Car en 1917, lorsque Lénine et ses partisans, les bolcheviques, prennent le pouvoir, eh bien ils instaurent un nouveau régime, un régime communiste. Dans ce régime communiste qui promeut l'égalité, eh bien cette égalité s'applique à tous, y compris aux Juifs. Et ainsi, les discriminations qui existaient à l'époque tsariste, l'obligation pour les Juifs de vivre dans une zone de résidence, l'interdiction de résider à Moscou et Saint-Pétersbourg, par exemple, les quotas d'étudiants juifs dans les universités aussi, sont abolis. Cela va permettre à cette population juive, estimée à 600 000 environ en 1926, eh bien de croître avec l'arrivée notamment de Juifs venus de Pologne ou de Roumanie. Et ainsi, en 1939, on estime que c'est 1 million de Juifs qui vivent dans la République socialiste de Russie, soit le tiers des 3 millions de Juifs du RSS. Alors, avec cette fin des discriminations, eh bien cela ne signifie pas pour autant la fin de l'antisémitisme. Car même si les lois changent, les mentalités perdurent. Et durant la guerre civile russe de 1917 à 1923, qui oppose les partisans de Lénine, les Rouges, aux partisans du Tsar, les Blancs, eh bien de nombreux pogroms sont commis contre les Juifs. Pogroms commis essentiellement par les Blancs, mais aussi parfois par les troupes bolcheviques. Néanmoins, eh bien Lénine réagit et signe le 25 juillet 1918 un décret de lutte contre l'antisémitisme et les pogroms. Il fait des discours aussi pour dénoncer l'antisémitisme. Voici par exemple ce qu'il dit en 1919. On appelle antisémitisme la propagation de la haine à l'égard des Juifs. Quand la monarchie tsariste, maudite, vivait ses derniers jours et tentait de monter les ouvriers et les paysans ignorants contre les Juifs. Ce sont des gens ignorants, abrutis, qui peuvent croire aux mensonges et aux calomnies répandues à propos des Juifs. Ce sont les restes d'époques féodales antérieures, quand les popes obligeaient de brûler les hérétiques sur des bûchers, quand existait l'esclavage des paysans, quand le peuple était opprimé et silencieux. Cette ancienne obscurité féodale disparaît, le peuple commence à voir clair. Ce ne sont pas les Juifs les ennemis des travailleurs. Honte au tsarisme maudit et à ceux qui tourmentent et persécutent les Juifs. Honte à ceux qui fomentent la haine contre les Juifs et contre les autres nations. Alors on pourrait croire bien sûr que les choses sont idylliques, que les Juifs vont enfin accéder à une égalité totale. Mais la contrepartie, eh bien, c'est la laïcisation forcée des populations juives. Car les Juifs ne sont pas reconnus comme une nation. Ils ne sont donc pas inclus dans la Déclaration des droits des peuples de Russie de 1918, qui promet à toutes les nationalités le droit à l'égalité, à l'autodétermination et à la sécession. Ils sont considérés d'abord comme les adeptes d'une religion. Et comme les églises ou les mosquées, les synagogues sont nationalisées. L'enseignement religieux est interdit. Et on ne peut donc désormais étudier la religion qu'en privé, sans faire le moindre prosélytisme. À partir des années 1920, les partis proprement juifs, même lorsqu'ils n'étaient pas religieux, comme le Bund par exemple, ou les organisations sionistes, commencent à rentrer dans la clandestinité. De 1923 à 1938, les bourgades agricoles où vivaient de nombreux juifs, les shtetl, sont transformées en colonies agricoles juives. Lesquelles colonies deviendront en 1939, au moment du grand tournant voulu par Staline, le successeur de Lénine à partir de 1924, des kolkhozes, c'est-à-dire des fermes où les paysans sont salariés. Et puis, dans les années 30, une vague de répression importante touche le Parti communiste et notamment ce qu'on appelle les vieux bolcheviks, les communistes qui ont participé à la révolution de 1917. Parmi eux, Trotsky, de son vrai nom David Brunstein, et Zinoviev, qui sont juifs tous les deux, et commence alors à apparaître une certaine rhétorique contre les juifs, y compris de la part des communistes. Néanmoins, Staline n'a jamais été publiquement antisémite. Rien à voir avec un Hitler et ses délires antisémites. Par exemple, le 12 janvier 1931, il déclare « Le chauvinisme national et racial est une survivance de mœurs détestables, datant de périodes durant lesquelles existait le cannibalisme. L'antisémitisme comme forme extrême du chauvinisme est une dangereuse survivance du cannibalisme. Les exploiteurs utilisent l'antisémitisme comme paratonnerre pour soustraire le capitalisme au coût des travailleurs. L'antisémitisme est dangereux pour les travailleurs comme un chemin trompeur qui les éloigne du droit chemin pour les mener dans la jungle. » Néanmoins, on peut noter que après le pacte germano-soviétique, le pacte Ribbentrop-Molotov, Maxim Litvinov, qui était commissaire du peuple aux affaires étrangères, est remercié. Il est remplacé alors par Molotov, qui déclare à ses collaborateurs « Nous mettons fin pour toujours à la synagogue ici. » Et puis vient l'agression allemande de juin 1941, l'opération Barbarossa. Les Allemands, sans déclaration de guerre, décident d'envahir l'URSS et les Einsatzgruppen fusillent plus d'un million et demi de juifs réfugiés en URSS. Lève-toi pour un combat à mort. Lève-toi, pays immense, contre la horde fasciste, contre la horde maudite. Voici les paroles de ce chant, la guerre sacrée, un chant de mobilisation pour lutter contre l'Allemagne nazie. Alors bien sûr, l'URSS a permis de vaincre l'Allemagne nazie, a sauvé les Juifs de la Shoah. Mais néanmoins, cela ne doit pas faire oublier qu'il y a eu aussi des cas d'antisémitisme durant la Seconde Guerre mondiale, du fait des populations russes, des dénonciations de juifs cachés aux Allemands, une aide donnée aux nazis pour retrouver les juifs parmi les prisonniers de guerre, ou le refus d'intégrer dans les rangs des partisans des juifs. Le bruit se répand aussi que les juifs seraient des planqués, pardonnez-moi l'expression, c'est-à-dire des lâches qui ne lutteraient pas en première ligne. On retrouve cela sous la plume d'Alexandre Solzhenitsyn, qui dans son livre « Deux siècles ensemble » écrit « En attendant, le soldat ordinaire cherche à voir le front derrière lui. Il a compris, et c'est compréhensible pour tous ceux qui ont participé à la guerre, qu'il y avait un deuxième et un troisième rang derrière le front, le personnel de l'arrière, l'intendance, le personnel médical, les nombreux techniciens de l'arrière, et bien entendu le personnel administratif, les clercs et toute la machine de propagande de l'armée, et ce compris les ensembles de musique et de danse, la brigade des artistes du front. Tout le monde trouvait cela évident, oui, il y avait plus de juifs à l'arrière qu'au front. Pourtant, cela est faux, et d'ailleurs les statistiques officielles le démontrent, puisque parmi les soldats soviétiques, si le pourcentage de morts s'élève à 25%, eh bien parmi les juifs mobilisés, ce pourcentage s'élève à 40%. Par ailleurs, la proportion de juifs volontaires pour servir, 27% des juifs en âge de combattre, est la plus élevée parmi les peuples du RSS. Après la guerre, un comité antifasciste est chargé de réunir les preuves des crimes commis par les nazis et notamment les Einsatzgruppen. Mais en 1946, le chef de ce comité antifasciste, Salomon Lovski, est accusé d'avoir rassemblé de manière inadmissible trop de juifs au sein de l'agence de presse Sovinformbüro. Et en 1947, Staline décide de liquider le comité antifasciste juif. On accuse alors les juifs d'être responsables d'un complot américano-sioniste dirigé par un soi-disant Isaac Goldstein, ami de Nadezhda Ilouyeva, qui serait responsable de la mort de celle-ci et de comploter contre Staline et sa famille. De 1947 à 1948, non seulement de nombreux membres de la famille de Nadezhda Ilouyeva sont arrêtés, mais les Salomon Mikholz, chef du comité antifasciste, est assassiné. Les choses se gâtent aussi avec l'arrivée de l'État d'Israël. Pourtant, tout avait bien commencé. L'URSS est en effet le premier pays à reconnaître l'État d'Israël en 1948 et il autorise la Tchécoslovaquie à lui fournir des armes. Mais voilà, la guerre israélo-arabe de 1948-1949 déclenche une vague de sentiments pro-Israël parmi les Juifs. Golda Meir, nommée ambassadrice d'Israël en URSS, fait un véritable triomphe lorsqu'elle voyage en URSS en 1948. Et on considère alors que les Juifs pourraient représenter une menace de nationalisme. Une campagne de presse est organisée pour lutter contre le cosmopolitisme sans racisme. C'est l'expression utilisée à l'époque. Bien sûr, cela désigne les Juifs. Les Juifs sont exclus de bien des grandes organisations. On révèle dans la presse les pseudonymes d'écrivains en révélant leur nom à consonance juive et des licenciements massifs de juifs dans les institutions et les entreprises ont lieu. Mais c'est sans doute le complot des blouses blanches en 1952 qui marque le paroxysme de cette politique anti-juive. En effet, Staline soupçonne ses médecins de comploter contre lui. Il leur donne l'usage de la torture contre ces médecins qui étaient pour beaucoup juifs. Et on commence alors à parler d'un complot, là aussi, via l'American Jewish Joint Distribution, le Joint. En décembre 1952, Staline déclare « Tout juif nationaliste est un agent américain du renseignement. Les juifs nationalistes considèrent que les États-Unis ont sauvé leur nation. Il y avait beaucoup de juifs nationalistes parmi les blouses blanches. » Le 8 février 1953, la Pravda commence la publication d'un feuilleton dont le titre est « Les naïfs et les charlatans », dans lesquels les juifs sont présentés comme des escrocs. Et en mars 1953, il est même question de déporter les juifs vers l'Extrême-Orient, vers le Birobidjan. La mort de Staline marque la fin de cette campagne, mais les choses ne s'amélioreront pas forcément après Staline, notamment avec la guerre de 1967 entre Israël et ses voisins, qui marque la rupture des relations diplomatiques entre Israël et l'URSS. Les Juifs qui veulent partir en Israël en sont empêchés. On leur refuse systématiquement les visas. Et en 1976, naît un mouvement qu'on appelle celui des réfusniks, qui souhaitent à tout prix partir pour Israël. Et finalement, quand 1991, avec l'effondrement de l'URSS, que les Juifs pourront rejoindre Israël librement, et c'est ainsi plus d'un million de Juifs qui quitteront l'URSS pour rejoindre Israël, mais cela est une autre histoire que je vous raconterai dans une prochaine chronique, un lundi, de 16h30 à 17h.